VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique ici aux États-Unis. Au lendemain de l'onde de choc provoquée par son succès à l'élection présidentielle, le milliardaire Donald Trump sera reçu ce jeudi à la Maison-Blanche sur invitation du président Barack Obama, qui n'a jamais caché ses divergences avec son successeur, mais veut faciliter une transition en douceur. Le futur 45e président des États-Unis et son prédécesseur démocrate, qui ont tous deux appelé à l'unité au terme d'une campagne d'une rare brutalité, s'entretiendront dans 3h à 11h. Heure locale, 16h, temps universel, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le succès de l'homme d'affaires new-yorkais de 70 ans, qui succédera le 20 janvier à Barack Obama, met fin à 8 années d'administration démocrate et place la première puissance mondiale sur une voie nouvelle et incertaine. Le nouveau président élu Donald Trump sera donc investi au début de l'année prochaine. Quels sont les défis auxquels il va faire face? Eric Manirakiza a posé la question à l'analyste politique et professeur de l'Université de Virginie, James Caesar.
Il aura plusieurs choses à faire tout de suite. Il a promis d'abord de commencer son fameux mur avec le Mexique. Il a dit qu'il allait expulser tout de suite les immigrants, au moins les immigrants criminels. Ça va peut-être arriver tout de suite. Puis il a parlé d'un plan pour une défaite de l'État islamique avec pas beaucoup de détails, mais il a promis quand même. Et puis il va dépenser beaucoup d'argent pour les infrastructures dans les 10 ans qui viennent. Donc, c'est une espèce de projet pour le commencement de son mandat.
Oui, mais dans les 100 premiers jours, qu'est-ce qu'il devrait faire, selon vous?
Il a dit qu'il a annulé tout de suite beaucoup de règlements que Obama a soutenus. Et puis, comme je disais, il dit qu'il va demander aux généraux de les forces militaires de lui donner un plan pour une défaite de l'État islamique. Ce ne sont pas nécessairement des choses sérieuses. C'est la rhétorique de la campagne. Et maintenant qu'il est élu, il doit décider les choses vraiment les plus importantes, ce qu'il peut faire tout de suite. Et vous savez, avec beaucoup de choses, ce ne sont pas que des propos. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir le soutien du Congrès. Donc, c'est un grand processus. Ça dépend de la question. Il y a des choses qui sont sous le contrôle du président, mais une grande partie qui sont sous le contrôle du Congrès. Par exemple, le mur. Il faut avoir une loi et il faut avoir des fonds pour construire le mur.
Il y a la question de la Russie, par exemple. Trump qui inspire beaucoup plus confiance à Poutine qu'à l'OTAN.
Ce qu'il va faire avec la Russie, ce qui n'est pas très cohérent, ça il faut dire. Il a parlé un peu favorablement en ce qui concerne Poutine. Mais hier soir, par exemple, il a modifié en disant que, bon, il va être juste avec tous les autres pays, mais il va défendre les intérêts des États-Unis. Je peux dire que sous ce plan-là, sur l'OTAN et la politique extérieure, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant est très flou et donc ça va changer. Et il s'agit aussi de questions qui va être le secrétaire d'État. Cette personne-là va avoir beaucoup de marge de manœuvre et on verra après le choix de ce personnage-là. C'est un des choix les plus importants.
Trump qui a promis beaucoup de choses pendant sa campagne, est-ce que vous pensez que maintenant qu'il sera dans la réalité du pouvoir, il pourra réaliser ce qu'il a promis?
Personne ne peut réaliser tout ce qu'il a promis, par exemple le président Obama. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est de choisir trois choses faisables tout de suite pour montrer qu'on peut agir. Démontrer qu'on est sérieux. Il n'est pas nécessaire d'accomplir tout ça, ce n'est que le bulletin de la campagne. Mais il va choisir les priorités tout de suite. Ces priorités peuvent être les choses qu'il peut faire lui-même et puis d'autres choses qu'il doit faire avec le soutien du Congrès, qui est maintenant, il faut dire, majoritairement républicain dans les deux chambres.
Il y a l'Obamacare qu'il a promis d'annuler. Est-ce que vous pensez qu'il pourra introduire une autre forme d'assurance maladie aux Américains immédiatement?
Ça fait partie d'une loi. Donc, il faut avoir le soutien du Congrès. Sauf que, au sein de ce loi, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises par le président Obama, et Trump pourrait annuler ces décisions comme ça. Les décisions qui sont sous le contrôle du président. Peut-être qu'il va commencer tout de suite, quand il est élu, en disant que je vais annuler une telle ou telle réglementation, etc., etc., pour montrer qu'il n'accepte pas Obama. Mais pour faire tout un changement de l'Obamacare, il faut le faire avec la coopération du Congrès. C'est aussi vrai que les démocrates ont admis pendant la campagne, y compris Mme Clinton et son mari, qu'il y a de graves problèmes avec Obamacare. C'est déjà admis, et donc ça va donner une possibilité d'avoir du soutien de quelques démocrates.
Le professeur James Caesar, analyste politique et professeur à l'Université de Virginie. Le résultat de la présidentielle du 8 novembre est difficile à accepter par des milliers d'Américains qui sont descendus dans la rue hier soir dans un certain nombre de grandes villes américaines pour protester. Ces manifestations pacifiques jusqu'à présent ont eu lieu notamment à Philadelphie, Boston, Los Angeles, San Francisco et Seattle. Les protestataires scandaient le slogan « Pas de Trump, pas de USA raciste ». Donc, pas de racisme aux États-Unis. Au Zimbabwe, le quotidien d'État zimbabwéen s'est réjoui ce jeudi de l'élection à la présidence de Donald Trump dans un éditorial où il remercie le peuple américain de ne pas avoir élu la belliciste Hillary Clinton. Mais la réaction officielle du gouvernement de Harare est restée plus mesurée. Le ministre de l'Information, Chris Moshoeshoe, a rappelé dans le Herald que les Zimbabwéens n'avaient jamais été l'ennemi des États-Unis. Et il a jugé encourageant le ton modéré du premier discours de M. Trump après sa victoire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, au moins deux personnes ont été blessées ce jeudi à Kinshasa dans de nouveaux affrontements entre policiers et étudiants qui manifestaient pour dénoncer la hausse de leurs frais universitaires. Les étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa ont érigé des barricades et perturbé la circulation sur un boulevard reliant les quartiers populaires de l'Est de Kinshasa au centre des affaires de la capitale congolaise. Et ce, pour protester contre l'augmentation par les autorités de l'université des frais d'études, désormais fixés à $350 contre $250 l'année dernière. Des policiers qui avaient quadrillé le périmètre ont tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser et les étudiants ont riposté par des jets de pierre. Le calme est revenu après plus d'une heure d'affrontement. Gabon, le patron des services d'immigration gabonais, la DGDI, a démissionné après une descente de plusieurs de ses agents dans les locaux d'un journal d'opposition à Libreville où ils avaient interpellé 14 personnes relâchées par la suite. C'est ce qu'annonce le ministère gabonais de l'Intérieur. Rappelons que le 4 novembre, des agents de la DGDI avaient fait une descente dans les locaux du journal d'opposition Les Échos du Nord, un journal particulièrement virulent dans ses prises de position contre le pouvoir. Ils avaient interpellé 13 personnes, notamment des journalistes et des membres du personnel administratif et technique. La rédactrice en chef adjointe, Raissa Oyaseko, avait été interpellée le lendemain matin à son domicile. Le Kenya a débuté, comme prévu hier, le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud au sein de la MINUS, la mission onusienne sur place. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Un premier groupe d'une centaine de soldats en provenance de Vaud, dans le nord-ouest du pays, a atterri à la mi-journée à l'aéroport international de Nairobi. Les autres soldats doivent être rapatriés dans les prochains jours. Le général Benjamin Biwott a confirmé le retrait des casques bleus de la MINUS, conformément aux directives du président Uhuru Kenyatta. Le contingent kényan, l'un des plus importants de la MINUS, compte environ 1000 soldats sur les 13 500 casques bleus déployés dans le pays. Le rapatriement de ces casques bleus fait suite au limogeage du commandant kényan de la mission onusienne au Soudan du Sud. Il avait été démis de ses fonctions début novembre. Une enquête de l'ONU avait accablé les casques bleus pour leur inaction lors des violences de juillet à Djouba, ayant opposé les forces du président Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle, alors vice-président du pays, Riek Machar.
Et pour terminer, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, embourbé dans une série de scandales de corruption, est confronté ce jeudi à une nouvelle motion de défiance au Parlement. Mais selon les experts, il devrait une fois de plus surmonter ce nouvel obstacle, malgré la colère qui monte au sein de son parti. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.